Hola, hola, moi c'est Astrid Toupiole et vous êtes bien sur Semillas Latinas, notre émission mensuelle qui vous embarque en Amérique latine à travers ses voix, ses luttes et ses cultures. Semillas Latinas, une émission de Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM. Alors voilà, cet épisode, c'est le dernier de notre série sur les mobilités humaines. Si vous vous souvenez bien, on a déjà parlé des flux latino-américains vers les États-Unis, des dynamiques internes dans le sud global, et aujourd'hui, on boucle la boucle avec les diasporas sud et latino-américaines en France. En gros, comment on crée de la communauté quand on est loin de chez soi? Quelles sont les dynamiques collectives qui mettent en avant les sujets latinos à Paris? Et comment on s'engage ici, en France, pour les cultures et les peuples de l'autre côté de l'Atlantique? Et c'est aussi l'occasion parfaite pour semer les graines, les semillas, de notre émission en public qui aura lieu le 22 avril à la Gaîté Lyrique. Et oui, et honnêtement, on espère vous y retrouver. Pour vous donner envie, on parlera de migration, de l'expérience de l'exil dans la pratique artistique jusqu'aux initiatives en Île-de-France qui permettent justement de créer cette fameuse communauté. Donc au programme aujourd'hui, question d'identité, de représentation, de réseau diasporique à Paris. Et pour nous aider dans cette proposition, on peut mobiliser quelques concepts, comme celui de la double conscience de Dubois, c'est-à-dire cette sensation d'être toujours entre deux mondes. En d'autres termes, c'est le sentiment d'appartenir à plusieurs identités sociales, ce qui rend difficile la construction d'un sentiment d'identité propre. On peut aussi prendre la notion de tiers espace, demi baba, qui va nous aider à cadrer cet épisode. C'est cet espace hybride que créent les diasporas, ni tout à fait ici, ni tout à fait de là-bas, mais quelque chose de nouveau. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai eu envie d'investiguer ce qu'on pense vraiment de l'Amérique latine en France. Parce que bon, faut bien prendre en compte dans quelles perceptions, quels imaginaires s'inscrivent les personnes qui arrivent ici. Et ouais, parce qu'on va pas se mentir, l'essentialisation des latino-latinas, il existe bien. Vous savez, c'est cette idée que tous les latinos sont chaleureux, qu'ils dansent la salsa, qu'ils parlent fort. C'est ce qu'Edward Said appelait l'orientalisme, mais version latino. Donc une construction occidentale qui exotise, qui simplifie et qui fige des identités super diverses dans des stéréotypes bien rangeables. Ça tombe bien d'ailleurs, l'Amérique du Sud était carrément sur le devant de la scène ces dernières semaines. Merci qui ?
And we will make America great again. God bless you and good night.
Sans aucun doute, on parle du Venezuela.
La tension entre les États-Unis et le Venezuela a franchi un cap.
Des explosions dans la nuit de Caracas. Et au petit matin, cette nouvelle qui provoque la stupeur. Les États-Unis ont arrêté le président du Venezuela, Nicolas Maduro.
Et du fameux Bad Bunny.
Vous le connaissez, vous, Bad Bunny ?
Bad Bunny à Porto Rico !
Un Bad Bunny qui enchaîne les messages politiques subtils, c'est ce qu'il s'est passé pendant le show de mi-temps du Super Bowl.
En fait, la présence des Latinos en France, elle est historique. Dès le 19e siècle, la France est perçue comme un idéal dans son système de valeurs, ses institutions. Et la Révolution française, les systèmes politiques français inspirent grandement les nouvelles républiques au moment des indépendances latino-américaines. Paris devient alors le Paris de la bohème, de l'université, des arts et de la politique. Une génération d'artistes en fait une étape initiatique ou un refuge face à l'étouffement généré par les régimes de leur pays. On a par exemple Neruda, García Márquez, Jorge Amado et surtout Julio Cortázar qui crée dans Marel, en espagnol Rachuela, une ville labyrinthique que de nombreux latino-américains parcourront ultérieurement. Puis vient mai 68, cet événement qui a une énorme résonance toute particulière dans le monde intellectuel latino-américain. Mais le véritable tournant, ce sont les années 70. Et oui, suite au coup d'état de la junte militaire dirigée par Augusto Pinochet au Chili, environ 7000 Chiliens fuyant la dictature obtiendront en France le statut de réfugié. Et au total, la France accueillera environ 15 000 ressortissants chiliens. Cet accueil, il est massif, il est chaleureux et solidaire. Les municipalités de gauche se sont portées comme volontaires pour prendre en charge les réfugiés, aux côtés des associations nationales comme la CIMAD ou France Terre d'Asile. Et aujourd'hui, après des vagues culturelles et artistiques, puis dans les années 70 politiques, la France voit arriver depuis le milieu des années 80 de nouveaux immigrés. Et l'image de l'intellectuel exilé politique chilien ou argentin laisse place aux migrants colombiens, équatoriens ou péruviens. Aujourd'hui, la population latino-américaine en France est estimée à 250 000 personnes, selon l'Institut français d'études démographiques. En Europe, dans son ensemble, 3 à 5 millions de latino-américains vivent sur le continent. Mais l'immigration latino-américaine en France a changé, et la perception que l'on en a, elle aussi. Et c'est là qu'on touche à un truc important, les représentations. En France, les Latinos rencontrent une histoire culturelle différente de celle des États-Unis, grâce à une histoire particulière d'expatriation dans les années 1960 et un attrait pour la Latinidad qui joue en leur faveur. En Europe, le Latino est une catégorie plus récente et n'est pas nécessairement associé aux mêmes stéréotypes qu'aux États-Unis. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de clichés. Hein. Le poncho, la salsa, l'exotisme et le Latin lover, tout ça, ça existe aussi ici, même si c'est moins systématisé qu'outre-Atlantique. Le terme latino lui-même, inventé aux États-Unis selon des chercheurs comme Laura Gomez, pour des fins sociales et politiques spécifiques, a été adopté par les migrants latino-américains en Europe, en partie comme une façon d'affirmer qu'ils font partie d'une diaspora transnationale plus large qui inclut les latino-américains aux États-Unis. Mais bon, la présence des latino-latinas à Paris, elle ressemble à quoi concrètement? Et c'est ce dont on va parler durant l'heure à venir. Et comme d'habitude, on commence par un tour d'actualité du dernier mois sur les territoires centre et sud américains. Et franchement, le continent n'est pas en reste. À l'image du reste du monde, montée des fascismes, interventionnisme états-unien et projet climaticide, ça déborde de partout. Alors on commence en Argentine, où c'est carrément la guerre contre les droits des travailleurs et tous les droits sociaux visiblement. Le 20 février, la Chambre des députés a voté la réforme du travail de Javier Milei, on vous en avait parlé sur Instagram. Et c'est pas anodin, puisque entre novembre 2023 et septembre 2025, plus de 20 000 entreprises ont fermé et 280 000 personnes ont perdu leur emploi. Concrètement, cette loi, c'est quoi? C'est des journées de travail qui peuvent atteindre 12 heures sans rémunération des heures supplémentaires, des réductions drastiques des indemnités de licenciement et de limitation du droit de grève. Ainsi, des grandes manifestations se sont organisées dans tout le pays et ont organisé une grève nationale de 24 heures. À Cuba, la situation est catastrophique. Dès son investiture en janvier 2025, Trump a réimposé un blocus total sur le pétrole à destination de Cuba. Après son intervention militaire au Venezuela qui a renversé Maduro, plus de pétrole vénézuélien pour l'île. Et il menace même de tarifs douaniers tous les pays qui vendraient du pétrole à Cuba. Résultat, l'ONU avertit que la vaste majorité des Cubains subit des coupures d'électricité rotatives et que la situation humanitaire pourrait s'effondrer si les besoins en pétrole ne sont pas satisfaits. Au quotidien, ça se matérialise par des coupures qui durent parfois 8 à 10 heures par jour, des bus qui ne roulent plus, des gens qui cuisinent au bois et au charbon et des centrales électriques cubaines qui ne peuvent fonctionner qu'à 34% de leur capacité. Plus au sud, en Équateur, c'est le gouvernement de Daniel Noboa qui fait passer le bulldozer. Le 26 février, l'Assemblée nationale a voté une loi qui supprime les exigences clés en matière de licence environnementale pour les projets miniers. Cette loi, c'est du pur extractivisme débridé. Le gouvernement a carrément éliminé le ministère de l'Environnement et transféré ses responsabilités aux institutions chargées de promouvoir les industries extractives. Donc un alignement total avec Trump. Noboa s'illustre également aux yeux de son homologue de la Maison Blanche. Il s'engage dans une coopération militaire anti-drogue avec Washington, rompt subitement ses liens diplomatiques avec Cuba et s'investit dans des rencontres de dirigeants conservateurs d'Amérique, la Shield of Americas. Au Pérou, l'histoire refait surface de manière glaçante. Le 6 mars, la Cour interaméricaine des droits de l'homme a condamné le Pérou à verser 340 000 dollars à la famille de Celia Ramos, décédée suite à une stérilisation forcée en 1997. Pour rappel, entre 1996 et les années 2000, jusque 314 000 femmes et 24 000 hommes ont été stérilisés de force sous le gouvernement d'Alberto Fujimori, principalement des populations indigènes et pauvres des Andes. Et devinez quoi ? Keiko Fujimori, sa fille, qui a toujours nié les abus de son père, est candidate aux élections présidentielles du 12 avril 2026. L'impunité continue. Mais bon, c'est pas que des mauvaises nouvelles quand même. Il y a aussi des victoires à célébrer en Colombie. Par exemple, le Pacto Histórico continue son chemin de transformation sociale malgré l'opposition. Il se positionne comme première force politique du pays suite aux dernières législatives. Et ses résultats propulsent Iván Cepeda comme successeur du président Gustavo Petro lors des prochaines présidentielles qui auront lieu au mois de mai. Et au Brésil, une double victoire récente. C'est d'abord les populations indigènes qui ont remporté une bataille majeure contre la multinationale Cargill qui voulait exploiter leurs terres. Cela faisait un mois que des communautés issues de 14 peuples autochtones protestaient devant le port contre l'exploitation privée de 3000 km de fleuves amazoniens. On parle des fleuves Tapajós, Madeira et Tocantins. Et c'est aussi la victoire contre les commanditaires du meurtre de Marielle Franco. Cela survient 7 ans après l'assassinat de cette militante femme politique noire et LGBT et son chauffeur qui ont été tués en 2018. Les commanditaires, un député et un conseiller au tribunal des comptes de Rio, ont finalement été condamnés à l'unanimité par les juges du tribunal suprême fédéral. Allez, restez avec nous pour cet épisode. Au menu aujourd'hui, c'est une fiction sonore sur le parcours de 4 Colombiens et leur émigration à Paris concoctée par Michael et Paloma. Préparez vos oreilles. Ensuite, vous aurez une chronique sur les liens entre Haïti et Paris que Manon nous présentera de sa douce voix. Et puis, surviendra un reportage sur la manifestation du 8 mars avec Juntanza Feminista et Alerta Feminista. Et surtout, on aura l'honneur d'accueillir le collectif Semillas directement dans le studio de Radio Campus Paris. Semillas Latinas, une émission Radio Campus Paris, un samedi soir par mois à 20h sur le 93.9 FM.
Vous entendrez dans ces capsules sonores 4 voix. 4 voix qui ont en commun les voyages et les migrations. Nos 4 personnages, Mario, Gloria, Alberto et Stella, viennent de Colombie, du village de Santuario, situé dans le département de Risaralda. Ils sont tous arrivés à Paris, dans l'appartement d'un proche, à la recherche d'un travail et d'un autre futur. À l'attention des auditeurs et auditrices, toutes les histoires seront en français, mais bien évidemment, vécues en espagnol. L'histoire est vraie, et c'est pour ça que cette narration n'est qu'une litanie.
Je suis arrivé à Paris par le RER B. Heureusement que Sergio est venu pour m'accueillir, je ne me serais jamais débrouillé sans lui. On est descendu dans une jolie petite gare à Gentilly, je crois. Le coin m'a paru bizarre entre des grands appartements et des petites rues bordées par des maisons de toutes parts. On est arrivé le soir, dans un studio où une personne serait installée confortablement, mais on était 10 et ils étaient en train de faire la fête. En arrivant, j'ai posé mes affaires dans un coin, j'ai commencé à discuter en attendant que les gens partent pour pouvoir me coucher. Il y avait des personnes de tout âge, 2 enfants aussi qui dormaient, appuyés contre un mur. Les gens restaient sur place, il était tard. Je me demandais si le train était disponible toute la nuit. Avec le décalage horaire, je savais même plus quel jour on était. Puis, tout le monde a commencé à se coucher. Ça m'a rassuré. Même ici, le train ne roule pas toute la nuit. Le lendemain, quand je me suis réveillé, j'ai d'abord compris que j'étais pas chez moi. Tout le monde était encore là et personne n'est parti. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que nous étions tous chez nous.
J'ai pris le métro après être sortie du travail. Ce jour-là, j'avais mal au dos, mais je ne peux pas passer un dimanche sans chocolat. Alors je suis arrivée à Place de Clichy en retenant ma douleur. À chaque fois, je vais à la Fonda. Je me demande comment ils ont réussi à faire tenir une boutique-restaurant dans ce qui ressemble plus à un couloir qu'à un local. J'ai pris mon chocolat Looker, comme d'habitude. Demain matin, je pourrais faire mon chocolat chaud, comme je le faisais avec mes frères et sœurs. Puis avec Alberto, nous irons sûrement manger une glace après avoir nettoyé notre chambre de bonne à la station Pernetti. À la Fonda, j'ai retrouvé Carlos. On a discuté de l'argent qu'il veut envoyer à sa famille. Apparemment, il aura bientôt assez pour rénover la maison de sa maman. Ah, la chance. À Santuario, nous sommes voisins et c'est vrai que la sienne commence à se faire vieille. Le bois du balcon s'effrite et la peinture s'éternit.
Ouais, je suis allé à contre-cœur au tournoi de Vincennes. À ce moment-là, je venais de me séparer de Laetitia et notre enfant passait une semaine avec elle et une semaine avec moi. On est venus ensemble du village il y a 5 ans et pas mal d'amis m'avaient tourné le dos après notre séparation. Faut dire que c'était pas malin d'aller voir une autre femme qui venait aussi de Santuario. Évidemment, j'ai pas participé à la compétition. C'était l'équipe de Santuario contre celle des Boliviens. Leur équipe était composée majoritairement de Péruviens. Bon, 3-1 pour nous après un dernier pénalty qui les a pas laissés à zéro. J'ai croisé furtivement Laetitia, enfin son regard, puis j'ai rejoint John, qui n'a pas manqué de me montrer sa nouvelle Citroën avec siège en cuir. On raconte qu'il a réussi à arnaquer plusieurs vieilles du 16e pour se l'acheter. Il sait même pas parler français, ce connard. J'ai à peine pu m'acheter une bière parce que le lendemain, je devais envoyer de l'argent à ma famille.
J'ai dû courir pour arriver avant la fermeture du bureau de change, rue Montmartre. Le caoutchouc de mes chaussures colle au trottoir et le soleil rase les rues à la fin de ce mois d'août. Enfin, je dois envoyer 200 euros pour les 15 ans de ma nièce et aider à l'organisation de sa grande fête. Je rentre dans le petit bureau à l'éclairage trop blanc et une petite foule oblige les nouveaux arrivants à attendre dehors. Là, une personne au fond me dit « Salut Estella, c'est Gloria ». Elle m'avait recommandé un travail de femme de ménage quand je suis arrivée. Si je peux travailler, c'est grâce à elle. On a fait la même école maternelle. Et à côté d'elle, il y a Alberto. Ce con se fait bien discret depuis qu'il a tout balancé par la fenêtre avec ma cousine. Enfin, je passe au guichet. Je donne les 200 euros que j'ai économisés ce mois-ci à destination de ma mère. Et en sortant du bureau, je croise Mario. Il a trouvé un boulot de menuisier avec la société d'un gars qui a été le maire de Santuario avant. C'est son anniversaire ce soir, et on va fêter ça dans son petit studio, Gare de l'Est.
Débile en pitié, ben y'a un problème. Par contre ça nous fait dirigeant fait n'a payé. Nous pas qu'à respirer, rêve nous abtouffé. L'état son poison yo ban prêt pour yo katouye. Haïti chérie ou gain pour lever. Yon jour méchant ça yo gain pour payer. Haïti chérie ou gain pour lever. Yon jour méchant ça yo gain pour payer. Yo ban nou val, fen ki te kay nou. Yo la gen nan men gan, pou de patcha nou. Yo la gen nan la ri, malen nou fleri. Ki medikaman ka geri nou me zanmi. Médicament qu'a guéri nous mes amis. Haïti chérie ou gain pour lever. Yon jour méchant ça yo gain pour payer. Haïti chérie ou gain pour lever. Yon jour méchant ça yo gain pour payer.
C'était Jean d'Amérique sur le 93.9 FM. Vous écoutez Semillas Latinas, restez sur nos ondes et merci Mickaël et Paloma pour le récit auditif. Et Manon, je crois que tu as pu te pencher sur l'histoire complexe et coloniale entre Haïti et la France et l'exil en France de nombreux Haïtiens et Haïtiennes en rencontrant un poète haïtien à Paris dans les studios de Radio Campus Paris.
T'es qu'un fils de client de pute, ouais.
paniquer ton père. Napoléon, t'as toujours voulu salir ma terre. Aujourd'hui ce temps est fini. Ici, mon serment de révolutionnaire.
Dans la chanson que vous venez d'entendre, le poète et chanteur haïtien Jean d'Amérique revient sur le passé colonial d'Haïti, plus précisément sur la défaite de Napoléon en 1804, lorsque les populations esclavagisées, anciennement colonie française de Saint-Domingue, se révoltent et forment la première République noire du monde. C'est un pan de l'histoire nationale très peu connu et très peu enseigné, voire complètement occulté. C'est entre autres l'histoire d'une ingérence économique et politique de la France, des États-Unis et du Canada, qui ont eu des conséquences dévastatrices sur Haïti et qui ont poussé de nombreux Haïtiens et Haïtiennes sur les routes, et notamment en France, où elles sont environ 100 000. Haïti, c'est donc aussi l'histoire d'une résistance, sur place ou en exil, notamment par l'art et par l'écriture. J'ai rencontré à Paris un soir de mars Patrick Michel, poète et journaliste haïtien en exil en France depuis 2023. Rester ou partir, beaucoup se sont posé la question. Comment résister, lutter en étant loin? Dans tous les cas, à l'image de Patrick Michel dans son roman sorti en 2023, Le meilleur est de l'autre côté, Yael tente de véhiculer et construire une autre image d'Haïti.
Sauf que voilà, déchirure, parce que j'ai l'impression d'avoir abandonné à un moment donné cette lutte parce que j'ai résisté pendant longtemps de ne pas laisser la terre. Sauf qu'à un moment donné, c'était devenu invisible, Port-au-Prince. Et c'est essayer de déconstruire cette image-là, présenter une Haïti plus nuancée. Parce que ouais. Ce qui est bien aussi, c'est qu'en laissant Haïti, avant de laisser Haïti, j'ai eu la chance de découvrir le pays, de faire vraiment le tour du pays. Et j'ai vu qu'Haïti, c'est pas que Port-au-Prince. Haïti, c'est une communauté qui résiste, c'est des gens qui disent non à ce réel et...
Il m'a parlé de ce qu'était pour lui l'exil, du pouvoir des mots pour raconter, apaiser ce sentiment et résister, et surtout du pouvoir des mots partagés avec la centaine d'artistes de multiples cultures et nationalités qui font partie de l'atelier des artistes en exil fondé à Paris en 2017.
Déjà à dire mon rapport à cette distance douloureuse, raconter cette brisure, cette cassure avec la terre-mère et aussi cet effort aussi de s'intégrer, cet effort aussi d'aller vers l'avant, parce qu'en réalité l'exil c'est ça aussi, c'est s'attacher à un pays en réalité qui n'existe plus, parce que même en Haïti je commençais déjà à ne plus reconnaître le pays parce qu'il commençait à être délabré, alors que l'Haïti de mon enfance c'était l'Haïti des beaux quartiers. Ce livre-là, c'est justement pour raconter cet état de dédoublement, c'est-à-dire être à la fois ici et ailleurs. C'est une matière première, d'abord. C'est la matière à partir de laquelle je crée, comme l'artisan utilise l'argile, voilà. Donc c'est politique dans la mesure où, pour moi, la poésie est cette dimension-là. Mon travail, ma démarche, c'est de lier l'intime et le politique. Ouais, c'est qu'il me fallait un lieu d'inspiration, un lieu où il y a des gens qui ont à peu près la même histoire que moi, qui ont fait la même traversée, même si je sais que les histoires d'exil sont différentes les unes des autres, mais quand même il y a un socle commun, c'est ce déracinement, ce rapport pour certains à la langue, une nouvelle langue qu'ils découvrent, et aussi ce besoin de s'intégrer et rejoindre cette communauté-là m'a vraiment aidé. Pas l'idée de communautarisme, en fait. J'aime bien cette évasion, rencontrer d'autres cultures, aller à la rencontre de l'autre.
Cette porosité aussi.
Exactement.
Pourquoi avoir besoin de dire qu'on est de là ou
tout
de
à
là
fait.
Et
ouais. Voilà.
Il m'a parlé de comment tordre la langue, une manière peut-être aussi de la décolonialiser.
Parce qu'en réalité, il ne faut pas qu'on soit dupe. La francophonie, la langue, ça charrie des valeurs, ça charrie une culture. C'est un rapport de pouvoir aussi, la langue. Donc, il faut vraiment que les pays francophones y mettent du leur. Et pour vraiment apporter ce qu'ils ont de particularité, de spécificité. Donc oui, c'est une façon de décolonialiser la francophonie ou les francophonies. Puis les mots sont très très importants pour moi, mais aussi dans le cadre de ma démarche aussi, il faut les saccager, les bousculer aussi. Et c'est pour ça, moi, j'ai une préférence pour la spirale, le spiralisme de Franck Etienne, de René Philoctète, où on porte assaut à la syntaxe, à la limite même de l'agression de la langue.
Parler d'Haïti, c'est parler d'hostilité, de souffrance et de tendresse en même temps. Et c'est ce que véhicule le poème qu'il m'a lu, « Les morts de ma ville ».
Si la rue et sa foule te font peur, habite-moi. Habite-moi telle cette banlieue qui s'accroche à mes nuits. Un dernier souffle qui agace mes envies. Possède-moi au passage des saisons bleues quand chaque rêve d'infini reflète la certitude de notre amour. Je sais qu'elle est muette, ta ville. Pas de mitrailleuse, pas même de cadavre décorant tes places vides. Ça doit être ennuyeux, j'imagine. Là-bas, tout bouge autour de nous. Les morts de ma ville respirent les pétales délaissés au recoin des trottoirs. Inconvenance des heures, tumulte des papillons roses. Je te bouleverse de ma passion et les pneus enflammés bont souvent ta peau blanche. Ceux qui mettent feu en plein jour sont ceux qui ont des rêves en cendres. Avec le temps, tu comprendras mon amour, qu'ici, les déchets font de meilleurs vers que les lumières de Versailles, que la pluie qui caresse l'horizon.
Je remercie encore Patrick Michel et je vous conseille vivement d'aller lire son recueil de poèmes « Verbouillage d'un rêveur isolé ».
Merci Manon pour cette chronique essentielle. Maintenant, un reportage autour de Juntanza Feminista et Alerta Feminista et leur organisation du 8 mars. On s'y est rendu ensemble avec Sylvie et Manon et elles ont profité pour capturer des ambiances et les revendications de cette journée. Bonne écoute.
Sont présentes dans les locaux de l'association France-Amérique Latine les collectifs féministes Alerta Feminista et Juntanza Feminista qui préparent en collectivité des banderoles en de la manifestation du 8 mars. Lors de cet événement, j'ai pu interviewer Catalina, originaire d'Argentine et membre de Alerta Feminista. Elle nous explique comment ce collectif s'est formé et son lien avec le mouvement Ni Una Menos qui a émergé dans différents pays d'Amérique latine à partir de 2015 pour dénoncer les violences faites aux femmes.
L'idée à la base, c'était justement de visibiliser les problématiques de nos territoires et les mouvements de Ni Una Menos qui étaient en train d'avoir une ampleur assez importante à partir de l'Argentine, mais puis largement dans les différents pays en Amérique latine. Donc, dans ce sens-là, à la base, les camarades, ils étaient plus, faisaient plus partie du milieu académique, mais aussi l'idée, c'était de créer des liens entre tout ce qui est la recherche, etc., et les mouvements des rues, enfin, les mouvements de l'activisme dans les territoires. Le plus important, je pense, c'est de réunir des personnes migrantes ici à Paris, des différents pays. Enfin, c'est un peu une référence pour les femmes qui arrivent, qui débarquent à Paris pour des diverses raisons. C'est des espaces safe où on peut partager nos cultures, notre langue et se sentir en sécurité. Partager nos vécus en tant que femmes migrantes ici, créer des liens de soutien entre nous. On est en contact ici avec d'autres collectifs qui ont émergé aussi. Donc on fait partie de ce qu'on appelle les bloques de Mujeres y Desidencias de Avialala. Là, on propose une rencontre avant le 8 mars, un peu un mode un peu libre, où on partage, c'est un moment convivial de partage. Là, on tisse une banderole et on fait des pancartes, on peut chanter, parfois on danse. Donc l'idée, c'est ben, justement de se rassembler surtout, avant tout.
J'ai également pu rencontrer Natalia, membre de Juntanza Feminista, un collectif féministe formé par des femmes colombiennes vivant en France qui mène des actions de sensibilisation sur les violences de genre.
Je crois qu'on a plein d'actions différentes. On fait de la sensibilisation, on travaille beaucoup avec des ateliers, par exemple, ateliers de sérigraphie. On fait aussi des ateliers de broderie. Demain, justement, on a un atelier prévu. Et ce sont des espaces, en fait, qui nous permettent de partager avec d'autres femmes en même temps qu'on mobilise une idée un sujet. Donc en décembre, par exemple, on avait organisé un atelier de broderie autour des violences subies par des femmes dans les transports en commun. Et donc c'était un espace, en fait, tu vois, quand on se réunit comme ça et qu'on... et qu'on peut partager, parler en même temps qu'on fait de la broderie, ça permet aussi de connecter d'une manière différente. C'est beaucoup plus intime. Et je pense que ça, ça crée, en fait, d'ailleurs, un espace très intéressant où, où chacune a partagé des expériences de violence ou d'agression, de harcèlement. Créer communauté, je pense que c'est surtout créer les espaces pour la rencontre. Et que cette rencontre soit le plus sûre possible, c'est-à-dire que ça soit un espace où chacune peut s'exprimer, peut dire ce qu'elle pense, ce qu'elle sent et ce qu'elle veut. Et puis aussi des espaces qui nous ressemblent. Donc, c'est-à-dire qu'on met de la musique parce qu'on est joyeuse, parce qu'on danse, parce qu'on aime danser, parce qu'on danse le reggaeton, parce qu'on danse la salsa, parce qu'on fait tout ça, parce qu'on... voilà. Donc c'est aussi tous ces espaces qu'on essaye de, voilà, d'ouvrir.
Avec Astrée et Manon de Semillas Latinas, nous nous sommes rendus, micro à la main, à la manifestation du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes.
On est ici, voilà, le 8 mars, avec un groupe de maracatu, qui est un rythme afro-brésilien, joué au nord-est du Brésil.
Est-ce que pour vous, ce genre d'initiative, ce genre de collectif musical, permet, de, à votre sens, de faire communauté à Paris, notamment avec d'autres personnes originaires du Brésil ?
Je pense que les maracatu, c'est un rythme, voilà, né de l'esclavage. Donc c'était déjà pour faire communauté. C'est éminemment politique. Parfois, on a du mal à comprendre comment les carnavals, comment la joie, elle peut vraiment côtoyer les politiques. Et pour moi, déjà, ça, c'est une chose, d'être ensemble, pour jouer ensemble, pour chanter ensemble, pour être ensemble, c'est déjà, voilà, très, très politique. C'est aussi un moyen de faire communauté, bon, voilà, avec les Brésiliens, les Brésiliennes qui vivent à Paris et d'autres. Mais ce que je trouve intéressant aussi, c'est que les groupes, il n'est pas composé que des Brésiliens. Il y a de personnes de différentes origines. Et donc, ça permet aussi de construire donc une communauté autour du maracatu, mais qui est ouverte. Et donc, ça, je trouve assez intéressant aussi.
Un rassemblement de plusieurs collectifs, dont Alerta Féministe et d'autres. Et nous, en marche, on s'appelle le Bloque Latinas. Et donc, ça regroupe tous les collectifs, associations féministes latino-américaines. Et donc, voilà, on essaye de, par la joie aussi, un petit peu transgresser la violence, un petit peu aller au-delà, s'appuyer, s'accompagner, mais tout en réfléchissant, en montrant la joie qu'on a avec notre esprit latino-américain.
Est-ce que vous réussissez à créer des liens avec d'autres collectifs, d'autres parties du monde, d'autres cultures ?
Oui, je pense qu'on reconnaît immédiatement qu'on a des luttes en commun avec toutes les femmes du monde entier, comme on dit dans les slogans qu'on va crier dans les manifs. Donc on se sent très proche de la lutte des femmes kurdes, des femmes palestines, de toutes les femmes qui luttent, mais partout dans le monde, bien sûr. Oui, parce qu'on sait que tout ce qu'on vit les femmes, c'est partout que ça se passe. Enfin, comme on dit nous, si on touche l'une d'entre nous, on nous touche toutes. Si tocan a una, nos tocan a todas.
Je m'appelle
prison, on m'appelle Lou dans l'asso dans laquelle je suis, Alerta Feminista, et je suis venue aujourd'hui à la manif pour la défense des droits des femmes avec ma petite Amapola. Il faut qu'on permette à nos enfants de lutter dès le plus jeune âge, et pour ça il faut leur donner de l'espace dans nos manifestations. Et alors c'est surtout par rapport aux violences faites aux femmes, mais les violences faites aux femmes, elles sont possibles aussi parce qu'il y a les violences faites aux enfants. Et pour moi, c'est des luttes qui ne peuvent pas être séparées. Et du coup, il faut qu'on commence à donner un peu plus la parole à nos enfants.
Il faut parler de l'Argentine sous Milei, parce que c'est un cas d'école de comment on peut démanteler des droits sans abolir la loi. Depuis décembre 2023, le président Javier Milei et son gouvernement ont démantelé les protections clés en matière de santé sexuelle et reproductive. Et même si la loi d'avortement reste en vigueur, une nouvelle sénatrice élue, Nadia Márquez, pasteur évangélique, a qualifié l'avortement de plus grand génocide de l'histoire et a promis de faire abroger la loi. Face à ça, la résistance féministe s'organise. Voilà pourquoi des collectifs comme Juntanza Feminista et Alerta Feminista à Paris sont cruciaux. Parce qu'ils portent cette lutte ici dans la diaspora et créent des ponts de solidarité transnationaux.
Perreo en 3, 2, 1.
Vaya, no me quedo con hambre. Si no me dan fiesta, yo me la armo sola. Como dice el conejo,
yo perreo sola.
Todo esto es fácil. Tres mujerones que bailamos, la gozamos, culo atrás, así, así. Ambiente es así. ¿A qué le llamo un taconata? Le imputamos de lo fancy. Ay,
estamos ready para perreo, pero no nos dan perreo. Estamos ready para perreo, pero no nos dan perreo.
C'était Perreo en Paris de La Coya. Pour celles qui ne connaissent pas encore, La Coya quitte l'Équateur à 18 ans pour Lyon, la Nouvelle-Orléans et puis Paris. C'est son mêle rythme traditionnel, électro et urbain, en français comme en espagnol. Et maintenant, il est l'heure pour nous d'accueillir nos homonymes, le collectif Semillas. On est vraiment honorés de leur présence aujourd'hui dans le studio. Sylvie, c'est à toi.
Et bonsoir à vous, Sara Velázquez-Orcel et Dionysian. Merci d'être au micro de Semillas Latinas. Donc vous êtes tous les deux membres de Semillas, qui est un collectif queer d'Abiayala. Et Sara, tu es historienne de l'art franco-mexicaine, doctorante à l'Université Paris 1, et tu rédiges une thèse sur la représentation de la conquête mexicaine dans les arts espagnols et mexicains au XIXe siècle. Et Dione, tu es un artiste migrant originaire du Costa Rica, de San José. Et pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment est né le collectif Las Semillas?
Oui, bah bonsoir. Alors, on a commencé avec une action. C'était un peu une action coup de poing. Du coup, genre, on traînait déjà un peu dans les milieux, dans des milieux similaires, latinos et tout. Et on a mené une action à la maison de Rouault.
À la maison de vente de Rouault, parce qu'on avait vu qu'il y avait tout un tas d'objets préhispaniques qui allaient être vendus, alors que plusieurs pays latino-américains, notamment le Mexique, disaient que c'était des objets qui avaient été acquéris illégalement et qu'ils réclamaient à ce que ces objets reviennent dans les collections, dans le patrimoine mexicain. Et effectivement, on était dans des groupes assez similaires, on se connaissait de loin parce qu'on était tous plus ou moins militants. Mmh. Et on a eu envie de faire une action coup de poing où on y est allé pour pouvoir dérouler une banderole et exprimer ce qu'on avait exprimé à ce moment-là. Mmh. Et c'est à ce moment-là qu'on a eu cette envie de créer le collectif Las Semillas.
Et donc mobilisation collective est né ce collectif que vous avez nommé Las Semillas, donc qui veut dire graines pour les auditeuristes qui ne sont pas forcément familiers de l'espagnol. Pourquoi avoir choisi le nom de Las Semillas?
Las Semillas, en fait, déjà, il y a cette idée de planter une graine qu'on aimait bien. Cette idée aussi de floraison, le fait de fleurir ensemble, de s'enrichir. Et puis, avec le temps, il y a aussi cette idée que... plein de choses nous venaient avec cette idée de graine. Ça venait déjà de plusieurs slogans qu'on pouvait retrouver dans certains... dans certains collectifs, par exemple, le slogan comme « Hoy semillas, mañana flores », donc aujourd'hui des graines et demain des fleurs. Mmh. Et puis, il y avait aussi cette idée de, avec Las Semillas, c'était de créer un écosystème. Et on aimait bien cette idée-là de graines qui fleurissent, qui cèdent ensemble, mais qui sont un peu toutes uniques. Et l'idée aussi des graines qui peuvent voyager.
Ouais, on trouvait que c'était assez parlant avec un parallèle avec des migrations. Mmh. De plantes et de graines latino-américaines en Europe, que nous, en tant que diaspora latino-américaine, on se retrouve aussi en Europe et que du coup, qu'on essaye aussi de créer du réseau et un peu genre un écosystème entre nous, ou en tout cas quelque chose de vivant et qui dialogue entre nous et avec le monde. Et du coup, la métaphore des graines, elle nous semblait hyper pertinente, quoi.
Et donc vous évoquez cette volonté de mobilisation ici et là-bas, de créer du réseau, etc. Est-ce que ici à Paris, vous êtes en lien avec d'autres collectifs militants latino-américains ou même d'autres régions du monde?
Oui, on est proche avec une coopérative féministe latina qui s'appelle La Papaya, qui du coup a pour but de faire un peu genre de l'économie circulaire entre personnes latino-américaines, militantes et artistes, et qui est issue de Raíces Rechas, qui est une batucada, du coup lesbienne féministe et décoloniale. Du coup, on a mené un événement avec elle, qui était celui du Día de Muertos. Et ça s'est super bien passé, on a trop kiffé.
Oui, et dans cet événement-là, il y avait aussi le collectif Ixteca qui s'occupe de faire des Día de los Muertos chaque année depuis des années, parce que là, aujourd'hui, c'est Samar qui a repris le flambeau et c'était sa mère avant qu'il y avait ce collectif. Et donc, même moi, petite, j'allais à ces événements-là et c'est des Día de los Muertos, mais qui ont à chaque fois un point de vue plus politique, parce qu'en Amérique latine, en Abiyala et principalement au Mexique, il y a cette idée chez les militants de faire, par exemple, le Día de los Muertos, mais quelque chose de militant, de politique. Mmh. Et du coup, là, avec cet événement-là, c'était cette idée-là aussi, toujours, de politiser l'événement, j'ai envie de
dire. Et aussi de lui donner une dimension... parler de la mort aussi dans nos cultures à échelle globale, mais aussi intracommunautaire et aussi personnelle, et rendre hommage et célébrer. Mmh. Ouais.
Oui, parce que le Día de los Muertos, du coup, le 1er novembre au Mexique, c'est vraiment une fête nationale à laquelle participe l'ensemble de la population. C'est quelque chose d'assez festif, donc de montrer aussi, d'avoir un regard politique sur cet événement, etc. Et de manière plus générale, quelles sont les actions que vous menez au sein du collectif?
Alors, on a fait donc cet événement-là, le Día de los Muertos. On avait fait aussi un événement pour le Jour des Indépendances. Et aussi, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas forcément des événements publics, mais le but de la Sémillas, c'est vraiment de créer un réseau. Donc, on va faire souvent des cercles de dialogue qui vont être plus fermés, enfin en non-mixité entre personnes latino-américaines, notamment en ce moment sur les questions liées au Venezuela. Mais
ouais. Donc voilà. On fait aussi pas mal d'ateliers artistiques. Ouais. Enfin, c'est un truc qu'on aime bien faire. Parce que du coup, on propose, au sein de nos événements, on a plusieurs volets, on va dire ça comme ça. Mmh. Et du coup, on aime beaucoup la question de la transmission de nos savoirs. Et on trouve que c'est une belle façon de genre, se reconnecter avec nos cultures. Surtout qu'on est un collectif qui est assez... on vient tous de différentes latitudes de l'Amérique latine. On se questionne tous ensemble sur ce qu'est la latinidad, en vrai. Genre... qu'est-ce que c'est au lieu de juste l'utiliser comme étendard, essayer de plonger un peu avec de la curiosité et de l'esprit critique aussi sur le terme. Et du coup, par exemple, à l'événement du Bunker, on avait fait un atelier de drapeau, créer ton drapeau décolonial. Et on avait aussi fait des ateliers sur les motifs, sur les ancêtres, des questions comme ça qui nous traversent.
Oui, parce que l'événement que vous aviez organisé fin septembre au Bunker, de justement avoir un regard décolonial sur la question liée à l'indépendance, c'était peu après l'indépendance, enfin la fête nationale du Mexique le 16 septembre. Du coup, qu'est-ce que vous entendez aussi par décoloniser ce regard-là sur cette fête nationale qui est... dans la plupart des pays latino-américains, assez festive, etc., qui est assez légitimée, je pense, aussi par une partie de la population. Pourquoi vous, de votre expérience, de votre regard, vous considérez qu'il y a une certaine critique à avoir et quel est votre regard décolonial à ce sujet ?
En fait, c'est vraiment devenu de questionnements qu'on avait tous ensemble sur cette idée-là d'État-nation, sur le fait que on sait que ces États-nations, ces frontières, elles ont été créées suite à la colonisation et que l'État-nation de la majorité des pays latino-américains a été créé plutôt avec l'élite créole qui ont installé aussi une certaine hégémonie. Et il y avait aussi cette idée que, par exemple, en Europe, on va beaucoup questionner dans les cercles militants cette notion-là d'État-nation, mais que dans nos pays latino-américains, le nationalisme, comme il naît après des siècles de colonisation, il est quand même teinté d'une certaine... de quelque chose
d'identitaire
identitaire qui va qui est pas forcément que ancré dans la colonisation mais justement et on voulait interroger ce paradoxe là
et je pense aussi que on est migrantes de première deuxième génération et vu qu'on a tous des parcours très différents on aime bien aussi pouvoir se pencher sur ces questions qui a priori sont assez simples, l'esprit d'une fête nationale ou un esprit de patriotisme, mais qui en vrai montrent les fictions et les incohérences dans les fictions et les narrations des États-nations dans lesquels nous sommes issus. Par exemple, moi au Costa Rica, là en février, il y a eu des élections présidentielles où il y a une candidate d'extrême droite qui a été élue. Et qui est la marionnette du continuismo, d'une buccalisation et d'une fascisation par le conservatisme religieux, qui est hyper spécifique à l'Amérique latine, mais qui est quand même teinté de cette dichotomie droite-gauche, questions de pouvoir, questions de classe, de race. Et on est plusieurs... moi, de mon côté, je me considère comme un latino mestizo, mais il y a plusieurs personnes dans le collectif qui revendiquent des racines indigènes. Et du coup, je pense que c'est important pour nous de ne pas faire d'amalgame là-dessus.
Oui, complètement. Et aussi, tu as parlé justement, Dionée, de cette question de la montée de l'extrême droite. La montée de l'extrême droite, on entend beaucoup parler, on le vit en Europe, mais aussi en Amérique latine. Et du coup, on voulait vraiment aussi discuter de cette dichotomie-là, puisque la montée de l'extrême droite en Amérique latine, ça vient aussi avec tout un nationalisme, tout un patriotisme qui est exacerbé dans ces fêtes de l'indépendance. Et du coup, on trouvait que c'était une bonne occasion de parler, de soulever ces questions-là. Pas forcément de trouver des réponses, mais en tout cas de poser le problème et d'essayer de réfléchir aussi entre nous à comment on peut faire collectif en dehors de ces questions-là d'État-nation. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer aussi comme futur désirable ensemble ?
Ouais, quels autres mondes sont possibles ?
Mmh. Oui, surtout, comme tu dis, un racisme qui est très présent de la part de l'élite blanche, criolla, envers les populations autochtones, indigènes, les populations afrodescendantes qui sont d'autant plus invisibilisées. Et je me demandais aussi, vous vous présentez aussi comme un collectif queer. Il y a beaucoup de collectifs aussi latino-américains ici à Paris. Pour vous, qu'est-ce qui peut-être vous démarque, entre guillemets, dans votre manière de vous organiser, de former ce collectif, de par cette revendication de cette identité queer ?
Bah, du coup, je trouve qu'on a créé le collectif dans cette intersection entre latinidad et queerness, aussi par un besoin qu'on ressentait, comme on en parlait avec Sarah, entre nous, du fait que les fêtes queer et les espaces queer ici à Paris, on trouvait quand même qu'ils étaient assez blancs. Et du coup, il y avait un peu une distance vis-à-vis de genre, nos identités latina et migratoires et tout. Et d'un autre côté, que les espaces latinés, en tout cas ceux qu'on était en train de fréquenter, ils manquaient de cette dimension queer. Enfin, moi, en tout cas... dans le milieu artistique, je ressentais un peu le vide qui est cool aussi qu'on puisse combler, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis, on a vraiment à cœur le fait de... Si on se réclame aussi queer, c'est parce que queer, traditionnellement, c'est dévié de la norme. Et cette déviation et cette marginalisation aussi qui vient de nos identités... on avait aussi envie de créer des espaces pour d'autres personnes qui se sentent aussi à la marge et qui se retrouvent un peu, si je puis dire, le cul entre deux chaises en ne pas sachant où aller, entre soit leur identité queer, soit leur identité latinée. Et c'était cette nécessité. Enfin, finalement, ça, c'est né aussi d'une nécessité personnelle.
Et est-ce que selon vous, toutes les actions que vous menez, le positionnement que vous avez, permet d'une certaine manière de créer une communauté à Paris de personnes originaires d'Abya Yala, de personnes queer ici à Paris ?
On espère.
Après, c'est vrai que via la SEMIAS, on a pu aussi rencontrer beaucoup de gens.
Ouais.
Et on espère vraiment aussi continuer. On a plein d'autres projets aussi. Et on a aussi envie de créer des ponts peut-être entre d'autres communautés. Par exemple, toujours avec ce focus aussi queer et décolonial, mais peut-être avec des gens d'Afrique du Nord et d'essayer aussi de créer des ponts et des points de dialogue.
Ouais. Et moi, je trouve qu'on a surtout... Enfin, ça vient d'une envie... Enfin, en tout cas, de mon côté, et je pense que plusieurs personnes de la SEMIAS me rejoignent là-dessus, du fait que, genre, on est quand même dans un climat politique qui fabrique l'urgence afin de fabriquer un consensus vers la droitisation et vers les intérêts capitalistes aussi. Et je sens que s'organiser, enfin, politiquement et puis communautairement aussi, en suivant l'urgence, qui est une urgence qui ne nous appartient pas, bah, en vrai, dans la durée, c'est pas tenable. Enfin, c'est pas tenable et c'est pas... je pense qu'on a envie de comprendre comment on peut fonctionner plus réellement ensemble de façon plus durable et d'une façon qui soit kiffante aussi pour nous, quoi.
Oui, c'est ça. Et puis de sortir aussi d'espaces peut-être trop numériques où, par exemple, suite à ce qui s'était passé au Venezuela, on a décidé de faire cette réunion et de privilégier la parole... entre nous plutôt que de décider de soit faire un communiqué, un post et de rester dans cette espèce de logique, comme tu disais, d'urgence face à ce qu'on nous impose finalement dans l'agenda politique.
Et de nous permettre la réflexion, quoi.
C'est ça, la réflexion et aussi le soutien affectif que peut permettre en fait la communauté et que ne peut pas permettre quand on échange que virtuellement. Et aussi, oui, c'est ça, des espèces de réflexion et qui soient peut-être un peu moins festifs, parce qu'il y a aussi cette idée que la vision que les gens ont des identités latino-américaines et aussi les événements qui sont proposés à Paris, c'est souvent sous le prisme, via le prisme festif. Et nos identités ne sont pas juste faire la fête.
Ou en tout cas, il y a une richesse et et une profondeur émotionnelle à notre façon de faire la fête aussi.
C'est ça.
Ouais. Qui dépasse aussi la fête. C'est aussi l'avant la fête, le après la fête, qu'est-ce qu'on fait dans les temps de flottement et comment est-ce qu'on construit ensemble dans ces temps-là. Quoi.
Oui, de mettre en avant la joie militante quoi, et surtout d'avoir un safe space entre vous. Peut-être très rapidement, quels sont les prochains événements peut-être que vous organisez là, dans les mois à venir ?
On aimerait beaucoup faire un événement pour le mois des fiertés en juin. Et aussi, on aimerait bien lancer un podcast pour justement, parce que dans chacun de nos événements, à chaque fois, il y a aussi des moments de table ronde, de discussion. Et on avait envie de rendre ça un peu plus pérenne via le podcast et de permettre aussi à d'autres de nous écouter.
Ouais.
Oui, d'élargir l'audience. Bah, vous êtes finalement dans l'endroit parfait pour vous lancer dans des activités radiophoniques. Et qui sait faire des crossovers avec Semillas Latinas. Merci beaucoup Sarah et Dionne d'avoir été au micro de Semillas Latinas. Et pour rappel, vous êtes membre du collectif queer d'Abya Yala, la Semillas, un collectif issu de la diaspora latino-américaine en France qui souhaite mettre en avant les cultures d'Abya Yala.
Merci.
Y artimañas, márchate sin mirar atrás.
D'écouter Asymmetricas de Yemaya la Banda, parce que nous sommes comme ça, asymétriques, impossibles à ranger dans des cases. Yemaya, c'est un orchestre de salsa 100% féminin, est engagé. On touche à la fin de cette émission inédite et inouïe, rien que ça, sur la présence des latino-latina à Paris. Franchement, ce sujet est tellement vaste qu'il va nous falloir plein d'autres épisodes pour en faire le tour. Donc écrivez-nous si vous avez des initiatives, des histoires, des collectifs à mettre en lumière. Un grand merci à toute l'équipe de Semillas Latinas où les ambitions fleurissent à chaque rendez-vous mensuel, croyez-moi. Merci aussi et surtout à nos consoeurs du collectif Semillas pour leur engagement et leur lutte qu'elles portent au quotidien. Et merci à vous, chers auditeurs, auditrices, pour votre intérêt et votre fidélité. Rejoignez-nous sur Instagram @semillaslatinas pour nous parler d'initiatives à mettre en lumière. On est tout ouïe. Et vous pouvez également retrouver tous nos épisodes sur les plateformes d'écoute en ligne, Spotify, Deezer, Apple Podcast, on est partout. Bon bah voilà, bonne soirée, nos vemos.